grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud maundi
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue du Studio Tamani. Ce jeudi 13 novembre, nous parlons de surfacturation, de l'achat de l'avion présidentiel et des contrats d'équipement de l'armée. Une pierre dans le jardin du pouvoir. 29 milliards de surfacturation concernant cet achat. Nous en parlons tout à l'heure avec nos invités. Koumba Traoré de l'association ICMA. Chekna Abounajim Sissé, qui est économiste, et Amadou Aya, secrétaire politique de Yelema, parti du Premier ministre Sira Batili, anime ce débat. La mise en onde est assurée par Gagné Kanté et Salim Djouara. Bienvenue à vous, chers invités. Le FMI qui épingle le Mali, un audit de la Cour suprême qui vient le confirmer, 29 milliards de surfacturation sur l'achat d'équipements de l'armée, sans compter les 32 évoqués par le vérificateur général. On se demande où va le Mali. Honneur aux dames, je commence par Koumba Traoré. Comment en est-on arrivé là?
Merci beaucoup, Sarah. Et avant de parler, je vais encore remercier le studio Tamani pour tout ce que vous faites dans le cadre de l'éveil de conscience et l'information de nos concitoyens. Comment en est-on arrivé là? Je pense que ça, c'est la question des 1000 dollars, parce que nous la posons tous. Nous avons des structures de veille, la société civile. Nous avons des organes de contrôle. Donc, c'est ce qu'on doit se poser comme question. Parce que si nous avions tous joué notre rôle de contrôleur, de vérificateur, de vraiment de peuple qui revendique, qui demande la redevabilité, qui est après ses gouvernements, qui comprend que le gouvernement est mis pour lui en tant que peuple, que c'est le pouvoir du peuple et par le peuple, nous ne devons pas arriver là. Donc c'est encore une des insuffisances de notre système démocratique encore. Mm-hmm. Et pour moi, en tant que société civile, je pense que le gros du manquement revient à la société civile.
D'accord. Bounajim, si c'est vous qui êtes économiste, a-t-on négligé quelque chose de la part de l'État pour arriver à cette affaire-là? Est-ce qu'on avait mesuré l'ampleur de cette affaire?
Je voudrais vous remercier pour l'organisation de ce débat qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations nationales et dire à la suite de ma sœur que, en tant que Malien, on ne peut que déplorer la situation qui prévaut, notamment de surfacturation. Mais je voudrais quand même rectifier déjà vos propos, c'est que la Cour suprême, dont le rapport j'ai lu en long et en large, n'a jamais fait part ni de surfacturation, ni de fraude.
Mm-hmm. Et la section des comptes, qu'est-ce qu'elle a fait?
La Cour suprême, je parle de la Cour suprême, c'est-à-dire la section des comptes de la Cour
suprême.
Voilà,
oui.
ils n'ont pas fait. Je pense que les conseillers de la Cour suprême, du fait que la Cour suprême soit la plus haute juridiction du pays, s'est abstenu, volontairement, je pense, parce qu'il y a des juridictions inférieures, pour les laisser qualifier les faits. C'est-à-dire qu'ils se sont limités à faire un rapport factuel, un rapport circonstancié avec un modèle bien connu. Alors le vérificateur, par contre, est allé un peu plus loin en donnant beaucoup plus de détails. Et je voudrais donner ici un avis tout à fait personnel, que j'ai d'ailleurs écrit en d'autres lieux. Et la transparence, c'est vrai que le peuple malien a besoin de transparence et les gouvernants ont une obligation de transparence vis-à-vis du peuple. Mm-hmm. Mais trop de transparence tue la transparence, comme trop d'informations, vous êtes dans le métier, tue l'information. Mm-hmm. Les annexes qui ont été versées par le vérificateur général dans son rapport, à mon sens, ne contribuent pas à une lecture plus heureuse de l'affaire. Par contre, ça met en nu beaucoup d'insuffisances et le Mali est dans une situation très particulière où il faut éviter de fragiliser les institutions de la République. Parce que les annexes qui sont versées, qui représentent à peu près 2/3 du rapport, sont extrêmement sensibles. extrêmement sensible. N'oubliez pas que je suis dans le domaine bancaire. J'ai vu beaucoup d'informations du champ bancaire qui sont sorties en état brut. J'ai vu beaucoup d'informations à caractère sécuritaire aussi qui sont sensibles. Donc je voudrais quand même faire ces réserves-là. Et pour répondre à votre question, et je pense que, comme l'a dit ma sœur, c'est que le système d'alerte qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que quand on perd, on ne doit pas perdre la leçon. On a perdu en 2012. Et le Mali n'a pas encore fini de comptabiliser la perte de 2012. Et quand on vit une telle situation, on doit se remettre en cause et mettre tout de suite en veille le système d'alerte. Le système d'alerte n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné, je veux...
C'est quoi le système d'alerte?
Le système d'alerte du pays, c'est ce que ma sœur qualifiait tout à l'heure de société civile. C'est ce qui constitue le corps des structures de contrôle. Et je vais vous donner un exemple précis pour qu'il n'y ait pas de méprise dans mes propos. Notamment au niveau des structures de contrôle. Je vais vous donner trois structures de contrôle. La Cour suprême, le vérificateur général et le contrôle général des services publics. Premièrement, la Cour suprême, dans la loi qui l'institue, dit en son article, dans ses dispositions, que c'est l'article 82 de la loi numéro 96-71, que la section des comptes peut à tout moment exercer tout contrôle, soit de sa propre initiative. Donc, la loi donne à la Cour suprême l'initiative de vérifier partout et à tout moment. Le bureau du vérificateur général, à l'article 14 de la loi instituant ce bureau-là, dit que le vérificateur général peut se saisir d'office de toute question relevant de sa compétence. Et enfin, le contrôle général des services publics, c'est l'ordonnance numéro 00051 qui régit le fonctionnement et l'organisation de ce service-là, dit clairement en son article 2 que le contrôle général des services publics, qui est placé sous l'égide de la primature du Premier ministre, effectue à la demande de l'autorité hiérarchique, donc de la primature, ou sur initiative propre après consultation de la dite autorité. Madame, vous constatez que il y a des structures de contrôle qui ont été dotées juridiquement de l'autosaisine qui, malgré quand même à profusion que la presse quand même a dit de façon très exemplaire qu'il y a de sérieux doutes sur un certain nombre de marchés publics. Donc ça devait alerter les structures de contrôle. Si elles n'ont pas ces moyens d'alerte, si on n'avait pas actionné ces moyens d'alerte, pour que rapidement on puisse se saisir. C'est lorsque tout le monde pratiquement était au courant de cette affaire et que les gens commençaient à s'indigner, que les FMI est venu pratiquement nous adjoindre de faire ces contrôles-là. Vraiment, c'est un peu déplorable. Et je pense que ça prouve que les institutions qui ne sont pas simplement les institutions républicaines telles qu'elles sont prévues dans la Constitution ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne qu'à travers une première institution, la plus grande institution, l'institution présidentielle. Et ça, dans une démocratie, quand il y a ça, ça veut dire que c'est les ressorts, les piliers qui ne sont pas suffisamment ancrés et qu'on peut basculer à n'importe quel moment dans des crises. Et aujourd'hui, la situation qui prévaut et les dictats que le FMI, à travers les organes de presse, je viens de lire dans les organes de presse, que le FMI dit que son conseil ne se nourrira pas tant qu'ils n'ont pas le rapport sur les sanctions, quand même, ça interpelle. Ça veut dire que, de façon claire et nette, cela risque de fragiliser nos institutions. Et vous connaissez ma position au niveau du studio Tamani. Tout ce qui permet de fragiliser, tout ce qui concourt à fragiliser les institutions de la République, je suis foncièrement contre, parce que ça ne peut que nous remettre dans une situation que nous ne souhaitons pas. Voilà ma première lecture de la situation.
Alors, Amadou Aya, vous qui êtes du parti LMA, parti du Premier ministre, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a défaillance au niveau de l'administration malienne? Il y a dysfonctionnement ou pas?
Merci, Syrah. Je me joins également à mes devanciers pour vous remercier, d'avoir organisé ce débat afin de débattre sur une question, à mon avis, extrêmement sensible, comme l'a dit M. Najim. Parce qu'il faut se rappeler que depuis l'institution du vérificateur général, c'est la première fois que nous voyons le rapport du vérificateur général dans son intégralité. Sinon, nous avons coutume de voir le rapport annuel du vérificateur général. Et c'est ce qui explique effectivement que dans ce rapport, vous avez des documents extrêmement sensibles qui peuvent fragiliser nos institutions et qui peuvent aussi mettre en cause la crédibilité également de nos institutions de contrôle. Et ceci dit, nous, au niveau de notre parti, nous avons effectivement examiné avec gravité la situation. Situation où des grands dysfonctionnements, non seulement de nos structures de contrôle, mais également de tout l'appareil administratif, qui découle, n'est-ce pas, de la faillite déjà de l'État depuis plusieurs années. Et il faut se rappeler aussi que le moment où ces 10 mars ont été passés, c'est au moment où l'État était en train de se reconstruire, où les structures n'avaient pas également, n'étaient pas suffisamment dotées pour permettre, n'est-ce pas, de circonscrire ce mal. Parce que certainement, certaines personnes...
Ce dysfonctionnement serait dû à un manque de moyens?
Ben, on ne peut pas attribuer cela à un manque de moyens. Parce que si les hommes et les femmes qui sont chargés de gérer des affaires se mettent eux-mêmes, n'est-ce pas, à tripatrouiller ou à contribuer à fragiliser la chose, en ce moment, on ne peut pas parler de moyens. Donc, à notre avis, il y a lieu de se remettre en cause, d'analyser cette situation de froidement, afin de permettre que plus jamais cela n'arrive dans notre pays. Parce que nous l'avons dit nous-mêmes, que le fait que c'est le FMI, c'est les autres qui viennent nous donner des injonctions, de demander, n'est-ce pas, de dire ce que nous devrons faire, c'est aussi toucher à notre souveraineté. Donc il est important pour nous que désormais, que ce système, que ce soit des systèmes de veille à tous les niveaux puissent fonctionner. Mais le plus important, c'est aussi nous les citoyens qui sommes chargés, n'est-ce pas, de gérer ces choses, que nous soyons vraiment à la hauteur des missions.
Alors, Koumba Traoré, vous qui êtes de la société civile, il y a bon nombre d'observateurs qui ont critiqué l'achat de l'avion présidentiel, un gâchis pour les Maliens. Par exemple, l'achat d'hélicoptères de guerre, les Maliens auraient compris cela. Qu'est-ce que vous en dites?
Sera effectivement, je suis contente que tu aies parlé de l'avion présidentiel, parce que dans l'introduction, moi je n'ai pas autant de problèmes, et mes camarades aussi au sein de l'association, nous n'avons pas autant de problèmes avec la surfacturation que avec l'avion militaire du président. Parce que pour la surfacturation, si nous écoutons bien, on est toujours en train de nous dire « rien n'a été payé encore ». Donc, la surfacturation, jusqu'à preuve du contraire, elle est théorique et sur papier. Donc, l'État dit qu'il n'a déboursé même un seul copec pour ces équipements-là, bien que le fournisseur ait livré à peu près 80%, si je ne me trompe pas, des équipements. Donc, pour l'instant, c'est pas très grave jusqu'à ce que on ait la preuve qu'on a touché à notre argent. Donc, par rapport maintenant à l'avion présidentiel, et c'est là où je serais un peu en contradiction avec mon frère qui dit que il y a trop de détails qui sont sortis.
C'est économiste.
Oui, il y a trop de Monsieur Najim, qu'il y a trop de d'informations, trop de détails, ça risque de fragiliser. Mais moi, je me dis, c'est des hommes et des femmes compétentes sur lesquels nous avons placé toute notre confiance et avec des années d'expérience chevronnées qu'on a nommées à ces postes-là. Donc, si ces personnes ont mis en cause la fragilité des institutions, nous, on ne va pas avoir pitié de faire l'autocritique pour nous améliorer. Pourquoi on se met en position de fragiliser nos institutions? Nous savons que nos institutions, c'est une jeune démocratie relativement. Si les institutions sont insuffisantes ou sont défaillantes ou ont besoin de renforcer les capacités, donc pourquoi, en tant que personne compétente, on a beaucoup d'intelligence au Mali, on ne se met pas ensemble pour maintenir les garde-fous, les procédures, les textes qu'il le faut, mais il faut toujours qu'il y ait un grand boom, un vrai mindful pas terrible pour qu'on commence à dire non, ne faites pas ça parce qu'on va fragiliser les institutions. Pour l'avion présidentiel, Sira, le rapport du vérificateur, comme il a dit, c'est le plus détaillé, c'est plus détaillé que la Cour suprême. Le rapport du Végal n'est qu'un rapport à mi-chemin. Parce que c'est un rapport on dit ça, la conclusion te laisse encore l'eau à la bouche. Aujourd'hui, personne ne peut dire dans ce monde que l'avion appartient au Mali. Personne n'a vu aujourd'hui la copie originale du contrat d'achat. On a vu la photocopie des photocopies. Et sur la photocopie des photocopies, l'avion appartient à la République du Mali théoriquement. Mais quand on a vu, quand ils sont allés déclarer à la banque, sur le bill of sale, donc le contrat qu'on a montré à la banque, on a acheté l'avion, le 20 mars 2014, donc un courrier officiel a été adressé de la banque au FAA. C'est le contrepart de l'ANAC, donc l'aviation civile, pour dire le Mali achète l'avion, ça va être exporté au Mali. Le purchaser, l'acheteur, c'était le Mali. Un jour plus tard, quand on va enregistrer l'avion pour sortir son titre, c'est-à-dire par à peu près sa carte grise, on va mettre là-bas que le 21 mars, un jour après la déclaration à la banque, pour dire que l'avion est acheté par Mali BGG Limited, une compagnie privée qui est enregistrée à Anguilla, des îles qui appartiennent au Royaume-Uni. Après ça, maintenant, pour exploiter l'avion, sur le titre, on dit, l'avion va être ship, on va envoyer l'avion, l'exportation de l'avion, c'est à Aruba. Ce n'est ni au Mali, ni aux Anguilles, mais maintenant c'est à Aruba, et celui qui exploite l'avion maintenant, c'est Jet Magic. Maintenant, quel est le contrat qui lie Mali BGG à l'État malien? Quel est le contrat qui lie Jet Magic à l'État malien? Parce que quand le président Ibeka ou nos gouvernants ne sont pas dans l'avion, l'avion est loué à quelqu'un d'autre. Mais quand il s'agit de réviser l'avion, c'est le Mali qui paye.
On va faire réagir les autres, juste le temps de prendre quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Et oui, vos réactions sont sollicitées sur la page Facebook et le compte Twitter du Studio Tamani. Vous nous suivez grâce à nos radios partenaires. C'est l'émission Le Grand Dialogue sur la facturation. Sur facturation, nos invités sont Koumba Traoré de l'association ICMA, Cheikh Nabounajim, économiste, et Amadou Aya, secrétaire politique de YLMA, parti du Premier ministre. Avant donc d'aborder le deuxième volet, je voudrais faire réagir les autres invités par rapport à l'avion présidentiel, à commencer par M. Bounajim Cissé, qui est économiste.
Moi, je veux préciser mes propos, c'est-à-dire que le rapport du vérificateur général et le rapport de la section de compte de la Cour suprême sont des rapports qui ont été faits par des professionnels. Ce que je regrette, c'est les annexes, l'additif qui a été joint au rapport du vérificateur général. Parce que si vous lisez, et je vais m'affranchir de les lire et de les citer, les annexes qui ont été versées au rapport, c'est ce qui pose problème. Parce qu'il y a des éléments de confidentiels sur l'effectif, militaire et sécuritaire d'un pays, sur des comptes rendus, sur des chèques. De banques qui mettent en cause le secret bancaire, hein, parce que des personnes vont se retrouver avec vous savez, en matière de banque, ce qui constitue le secret bancaire, c'est le fait pour la banque de préserver le caractère confidentiel de l'information que le public met à sa disposition. Et le fait que vous venez dans une banque pour faire un retrait de chèque, ces informations ne peuvent pas être porté à l'attention du public sans votre accord, sinon on violerait le secret bancaire. Donc, la lecture de cette affaire aurait pu se faire sans ces annexes-là. Et je reviens par contre sur un élément qui me paraît important. Tout le monde dit qu'il n'y a pas eu de décaissement. Effectivement, le budget n'a pas eu de décaissement en numéraire. Mais il y a eu une levée une production d'une caution bancaire. Alors, comme moi je suis banquier, il faut que je vous en parle pour qu'on puisse
expliquer. Oui.
Alors, c'est une garantie autonome qui a été émise. Mmh. Et sur la base de cette garantie autonome, les banques dont je ne veux pas citer, puisqu'elles sont citées à profusion dans le rapport, ont effectivement prêté de l'argent aux contractants, c'est-à-dire à la société en question. Et les montants sont extrêmement importants, ça fait 45 milliards. C'est des lettres de crédit, c'est des avances en compte. Donc, c'est des crédits de trésorerie, des engagements par signature sur la base de la garantie autonome. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une garantie autonome pour vos auditeurs? La garantie autonome, ça veut dire que celui qui émet la garantie, il le met à première demande. Ça veut dire qu'à la première demande de la banque, sans bénéfice de discussion, lorsque les prêts qui ont été consentis à la société viennent à échéance, mm-hmm. on fait appel immédiatement à la garantie. Donc, ce n'est pas un décaissement immédiat. Le gouvernement n'a rien décaissé, mais le gouvernement, l'État va décaisser puisque c'est une garantie qu'il ne peut pas souffrir. Et souffrez-en que je vous lise une partie puisque, d'ailleurs, ce document se retrouve dans les annexes.
Parce qu'il faut qu'on aborde
c'est parce
le
que c'est très important
maintenant.
Parce que tout le monde dit que rien n'a été décaissé. Mm-hmm. Il est bon de dire tout de suite, bon, même madame aussi dit que rien n'a été, aucun copec n'a été décaissé.
Allez-y, monsieur Bounajim.
Alors, je lis. Alors, le garant, mm-hmm. le garant ne peut pas opposer au bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est la banque. Mm-hmm. Le garant, c'est l'État. Mm-hmm. Notamment, qu'il y ait des rapports entre le ministère en charge de la Défense ou les donneurs d'ordre, c'est les fournisseurs. Mm-hmm. Que ce soit en cas d'empêchement, d'événements politiques, de difficultés économiques, de moratoire, le garant doit, sans bénéfice de discussion et immédiatement à première demande, s'exécuter lorsque les termes du protocole sont évoqués par le bénéficiaire. Mm-hmm. Ça veut dire que, et d'ailleurs, les avocats de cette société, je pense qu'ils en ont parlé, je ne veux pas revenir là-dessus. Et ce qui est aujourd'hui, ça fait à peu près 107 milliards et la garantie est donnée pour 100 milliards pour tenir compte des intérêts et des frais accessoires éventuels. Mm-hmm. Là aussi, on peut ouvrir le débat sur le gap qu'il peut y avoir entre le montant réel mm-hmm. du marché mm-hmm. et puis la garantie. C'est un autre débat. Il faut aussi préciser que dans le cadre de cet avion, puisque c'est votre question, la question que vous m'avez posée, mm-hmm. comme la Cour suprême, comme le vérificateur général, mm-hmm. je pense que c'est du domaine de la souveraineté nationale. L'État, de façon souveraine du Mali, a décidé d'acquérir un avion. Et cet avion, ni le FMI, ni les contrôleurs, vous avez vu, même les réserves du vérificateur, disent qu'on ne se prononce pas sur l'opportunité parce que nous estimons que l'opportunité relève de la souveraineté nationale. Donc moi, en tant que citoyen, je ne peux pas discuter de l'opportunité, encore moins aller à l'encontre de cette opportunité. Mais ce n'est pas ça la question. Je pense que le peuple malien, ce n'est pas ça la question. Le peuple malien, c'est les conditions dans lesquelles cette acquisition a été faite. Les conditions dans lesquelles cette acquisition a été faite qui posent aujourd'hui problème. Ce n'est pas l'opportunité de l'achat ni de l'avion.
On va faire réagir Amadou Aya du parti Yelema sur cette question d'avion présidentiel. Deux mots là-dessus avant qu'on passe au deuxième volet.
Ben, je pense que sur la question de l'avion présidentiel, le rapport a été suffisamment clair. Et, comme l'a dit M. Nazim, le vérificateur l'a dit, il ne se prononce pas sur l'opportunité de l'achat de l'avion. Mais aujourd'hui, tout le monde est unanime, que ce soit au niveau des états-majors, qu'il y a eu des irrégularités. Mm-hmm. Des irrégularités manifestes dans l'acquisition de l'avion. Maintenant, la question qui se pose, nous en tout cas au niveau des états-majors, c'est de faire en sorte aujourd'hui que ces erreurs qui ont été commises soient réparées. Parce que le peuple, effectivement, attend cela.
On va y venir au troisième volet, les erreurs à corriger. Juste le temps de rappeler que nous abordons maintenant les conséquences politiques de ces surfacturations. L'ADEMA Association invite le président à sanctionner à la hauteur de fautes commises toutes les personnes, membres ou non gouvernement, signataires de tels crimes financiers inacceptables, surtout dans le contexte de menaces de partition du pays. Alors, docteur Bounajim Cissé, d'abord, quelles peuvent être les conséquences politiques de ces surfacturations?
Je ne suis pas un analyste politique, je suis un citoyen. Je sais, c'est difficile pour moi de pouvoir...
L'avis du citoyen.
L'avis du citoyen, moi je pense que, comme un éditorialiste de la place l'a dit, il faut que le président de la République reprenne la main. Il est important qu'aujourd'hui, de façon... le peuple a besoin d'un acte fort du président de la République. C'est la plus haute institution du pays. Il y a eu des faits d'un niveau de gravité assez élevé qui ont été soulevés. Il y a eu des errements, et des corrections ont été apportées. Mais il est important que le président de la République prenne la main pour dire au peuple que j'ai compris et j'ai décidé de rectifier. Et ça, c'est, je pense, qu'un acte politique très fort qui peut se manifester par une adresse à la nation, qui peut aussi se manifester par des actes concrets qui sont visibles par tout le monde. Mais je voudrais dire que ce n'est pas parce que vous portez un bonnet que vos maux de tête vont aussi disparaître. C'est-à-dire qu'il y a une certaine tendance, chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, pour dire
on change
les institutions et on remet les... Le Mali ne peut pas se permettre dans la fragilité parce qu'il ne faut pas oublier qu'économiquement, nous sommes extrêmement fragiles. Et c'est pour ça que nous subissons l'association du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Les gouvernants devaient être assez alertes pour comprendre cette fragilité dans laquelle le peuple est et le pays est, pour s'affranchir d'un certain nombre d'éléments tels que nous avions vécu. Ça n'a pas été fait. Le président de la République doit en tirer toutes les conséquences et prendre des mesures qu'impose la situation.
Alors, Koumba Traoré, il y a beaucoup d'observateurs qui proposent que le gouvernement démissionne. Et quel est votre avis là-dessus?
Merci, Sarah. Je crois que... Mais avant de répondre à ta question, je veux seulement clarifier un petit point dans l'intervention de M. Cissé. Parce que c'est très important... D'abord, ce que moi j'ai dit, c'est que je donne à l'État ou le gouvernement ou à qui que ce soit le bénéfice du doute. Mais la ministre de la Finance ou des Finances a bien dit que le gouvernement n'a déboursé aucune somme pour le marché des équipements. Nous sommes tous au courant de la garantie bancaire. Mais encore, la grande surprise, M. Cissé, c'est que la même ministre est ressortie pour dire... Hey, la banque, si vous avez donné quelque chose sur la garantie, c'est votre problème. Parce que voyez les dates. Moi, ma dernière lettre là, signée, ne colle pas. Donc tout l'argent qui est sorti avant, ça c'est vraiment la faute de la banque. Donc vraiment, Sira, il nous faut vite que la justice rentre dans la danse. Parce que pour moi, le pouvoir exécutif a fait ce qu'il a eu à faire. Maintenant, il faut que la séparation des pouvoirs devienne une réalité. Que le Parlement intervienne pour interpeller le gouvernement, pour sonder encore, parce qu'on a vu que la première motion de censure, c'est du n'importe quoi qui a été dit là-bas. Avec toutes mes excuses à mes aînés. Donc il faudrait que le Parlement revienne encore pour une motion de censure très grave et très très vraiment pointue. Même s'il nous faut la faire sur 2 jours, faisons-la sur 2 jours. Mais qu'on aille au fond des réponses. Que la justice intervienne. Et si ces 2 piliers-là ne répondent pas, que la société civile, qui est le 4e pouvoir, qu'on s'assume et qu'on demande réparation. Mais on ne peut pas continuer comme ça. La demande a revendiqué, c'est vrai, mais le samedi, nous, on était là. Vous nous avez même accompagné l'initiative pour le changement au Mali en Afrique. On était là avec le FME, on a organisé des échanges populaires. Et la suite de ces rencontres, là, c'est encore samedi prochain. Nous nous réunissons et ce n'est pas exclu parce qu'on met un organe de suivi et de veille en place. Ce n'est pas exclu que nous nous constituions en partie civile pour attaquer le gouvernement et l'État. Parce qu'on a même... On est en train même d'envisager, on a fait une déclaration suite à notre rencontre, de voir avec qui de droit, parce qu'on n'est pas des experts, mais on va aussi approcher les avocats et tous les activistes des droits de l'homme pour savoir si de tels crimes, s'ils s'avéraient que c'est vrai, parce que le vérificateur n'a pas mâché ses mots. Dans le rapport, il parle de fraude fiscale, il parle de plusieurs types de fraude, il parle d'irrégularité et il parle de surfacturation. Donc, toutes ces terminologies, la fraude, irrégularité, surfacturation, sont notées dans le rapport du Végal. D'accord. Donc, s'il le faut, nous, on va même inclure la CPI comme pour crime de guerre, contre crime contre l'humanité. Parce que nos situations géographiques, sociologiques, économiques ne permettent pas de telles dérives, comme il a si bien dit après 2012.
Alors, Amadou Aya, les ministres qui sont épinglés doivent être poursuivis
ils
par la justice.
Ils ne sont pas épinglés encore, on espère qu'ils le seront.
Merci, merci. Je crois que. Je crois que notre sœur est très passionnée par la situation. Et comme également dans la plupart des grains. Mais je pense qu'il est important pour un État qui est fragile, pour un État qui est dans une situation trouble comme le nôtre, d'agir avec responsabilité en faisant la part des choses. Parce que vous savez, aujourd'hui, cette situation a fait que nous avons oublié la question du Nord, qui est une question fondamentale pour le pays. Donc tout ça, ce sont des méfaits de la crise, n'est-ce pas, de cette surfacturation, où souvent les spécialistes même parlent, donnent des définitions de surfacturation. Donc toute chose qui met encore... qui nous mène encore des débats, qui ouvre ces
débats. Monsieur Aya, je vais vous couper juste le temps d'aller en pause et puis nous revenons.
Merci beaucoup.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, le troisième volet de ce débat, le dernier axe, donc, c'est la solution, c'est-à-dire comment sortir de cette impasse. En tout cas, les propositions ne manquent pas, mais avant d'y venir, M. Amadou Aya du parti Yelema nous entretenait sur les poursuites judiciaires par rapport au ministre accusé.
Bien, donc je disais en fait que dans cette situation trouble, il est important pour nos décideurs d'agir avec responsabilité, avec méthode, pour arriver, n'est-ce pas, aux sanctions qui ont été annoncées par le chef du gouvernement, qui a dit que la suite, n'est-ce pas, de ce rapport, il y aura des sanctions administratives et des sanctions pénales. Ce qui veut dire que la justice, telle que réclamée par ma sœur, va rentrer dans la danse. Mm-hmm. C'est ce qui est important, c'est que ces crimes qui ont été commis ne resteront pas impunis. Non, ça, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à la CPI, mais ce qui nous rassurons, que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour y arriver, en tout cas, à circonscrire ce mal. Donc maintenant, les poursuites judiciaires, c'est que sur les dossiers seront transmis.
C'est à quel niveau présentement?
Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas encore transmis. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. C'est que je vous rassure que les documents seront transmis à la justice, qui maintenant va rentrer dans la danse, qui est un autre pouvoir.
D'accord. Dernier axe de ce débat, c'est la solution. Les propositions ne manquent pas. J'en parlais tout à l'heure. Certains estiment que le président Ibeka doit s'entourer d'une équipe d'hommes et de femmes solides à tous égards en vue de restaurer la crédibilité de l'État fortement atteinte, de restaurer donc sa noblesse à la politique et aux politiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Bounajim Cissé, économiste?
Je pense que, madame, je le disais tantôt qu'il faut que le président de la République reprenne en main la situation, pour qu'elle ne puisse dégénérer encore. Et le temps joue en sa défaveur. Je pense que le plus tôt serait le mieux, de prendre les mesures appropriées à la dimension de la situation. Je pense aussi qu'il faut aussi se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que ce qui a été fait, c'est vrai que c'est le Fonds monétaire qui a mis la pression pour que tout cela puisse sortir. Mais quand la calebasse se casse sur votre tête, je pense qu'il faut en profiter pour vous laver à grande eau. Et il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour rectifier les parties indûment larges du code de marché public. Ça, il faut le saluer. Il faut aussi saluer la transparence qui a prévalu. Parce que aussitôt je pense que le chef du gouvernement a saisi les structures de contrôle qui ont fait un travail en toute indépendance, eux-mêmes ils l'ont dit. Et maintenant il faut en tirer les conséquences rapidement. Et ça c'est le niveau curatif, mais il faut aussi prévenir. Je dis une fois, nous avions une situation pléthorique de structures de contrôle. Et moi j'ai toujours appelé à la rationalisation de ces structures de contrôle. Parce que normalement, si ces structures de contrôle fonctionnaient normalement, aujourd'hui, on aurait pu prévenir ces genres d'incidents qui sont d'une gravité extrême, je le dis. La deuxième chose, c'est que il faut que la société civile malienne, je pense que là aussi je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau-là, il faut qu'elle devienne le véritable moteur. C'est ce qu'on a vu au Burkina, c'est ce qui se passe partout, en Égypte, au niveau des printemps arabes. Maintenant, vous posez une question. Lorsque l'honneur, la dignité d'une personne publique est entachée de doute ou de suspicion dans les grandes démocraties, ces personnes s'affranchissent de leur statut public pour pouvoir défendre leur honneur, leur dignité, tout simplement. Je pense que au-delà du président, son entourage ou ceux qui collaborent avec eux, qui ont été cités ou dont l'honneur peut-être malencontreusement a été mis en cause, doivent défendre. Et s'ils restent dans leur situation, c'est difficile. On ne peut pas être, par exemple, ministre du gouvernement ou proche collaborateur du président et aller à l'encontre de ce qui peut être dit dans les médias ou ailleurs. Ça ne se fait pas. Donc, on s'affranchit de son statut public et puis on défend son honneur et sa dignité devant la justice. Et parlant de la justice, je pense que la justice avait été déjà saisie lors de la première publication. Elle s'est auto-saisie lors de la première publication d'une information judiciaire, je pense, a été ouverte lors de la publication du rapport de la section de la Cour suprême. Le vérificateur général a dit dans son rapport aussi qu'il a saisi le procureur général d'une fraude, une dénonciation de 12 milliards, représentant, je donne la décomposition pour vos auditeurs, 9 milliards au titre de transactions frauduleuses, 2 milliards au titre, à peu près 3 milliards au titre de fraude fiscale. Et les terminologies en matière de contrôle, il faut faire extrêmement attention entre manque à gagner, surfacturation, etc. Tout ça, Madame l'a dit, peut-être des experts doivent être amenés pour bien décortiquer tout ça, pour informer les gens. Mais aujourd'hui, je pense que celui qui a la balle et celui qui doit avoir la balle, et je suis sûr que lui qui a placé son mandat sous le signe de la bonne gouvernance, il doit être touché très profondément parce que c'est lui qui a dit que 2014 serait l'année de lutte contre la corruption.
J'allais y en venir tout à l'heure.
Et donc aujourd'hui, c'est déplorable qu'on ait exactement le contraire de ce qu'on attendait. On pensait que c'était une année de bonne gouvernance. Aujourd'hui, on découvre que la situation quand même est assez préoccupante. Et donc, je pense que s'il prend aujourd'hui des mesures, et le plus tôt serait le mieux, et nous l'invitons vraiment à prendre ces mesures pour que l'honneur et la dignité du peuple malien soient restaurés définitivement.
Oui, Koumba Traoré, c'est l'image du Mali qui est en jeu et qui est erronée. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour redonner cette confiance-là aux bailleurs de fonds?
Ah, Sira, vraiment, c'est ça en fait. C'est l'image du Mali qui est vraiment tarnie en de plus. Parce qu'il y a déjà, l'image était tarnie depuis le début de la crise, en 2012. Mais il faudrait qu'on sache que ce soit le FMI ou que ce soit toute structure externe, ce n'est pas ce qui est important. L'important, c'est ce que nous-mêmes, en tant que Maliens, nous voulons faire pour notre pays. C'est ce qui est important. Donc, nous devons vraiment ouvrir nos yeux et accepter l'autocritique. Parce que sans l'autocritique, nous ne sortirons jamais de cette situation-là. Et pour moi, il faudrait qu'il y ait justice. Et je ne veux pas seulement qu'on pense à la justice traditionnelle. Il faudrait qu'on puisse penser aussi à la justice transitionnelle. Parce que ce qui est en train de se dessiner, nous sommes en train de pousser vers la justice des tribunaux. Et en même temps, les ministres qui sont impliqués, notamment Fili, notamment Boubé, notamment Ben Barka, sont en train de nous dire, particulièrement Fili et Boubé, le Végal n'a même pas mandat. Donc ce qui va arriver, s'ils poussent ça avec leurs avocats, ils vont venir mettre un vice de forme, je ne sais pas, on dit une vice de forme, un vice de forme. Pour dire, attention, tout ce qui a été révélé là, qui est sur la table, est caduque même. Parce que le mandat de celui-même qui a sorti ça n'est pas valable. Mais qu'il soit rassuré, et ce n'est pas une menace. C'est parce qu'on sait ce qu'on a vécu. Et ma génération et la génération qui me suit ne vont jamais accepter cela. Donc s'ils ne veulent pas que la justice des tribunaux aboutisse là, ils feront mieux de corriger tout de suite. Parce que la justice transitionnelle, la justice du peuple, et l'exemple du Burkina est là, va parler. Et devant la justice du peuple, il n'y aura pas de repli.
Oui. Amadou Aya du parti ELEMA, le président de la République avait décrété l'année 2014 celle de lutte contre la corruption. Est-ce qu'elle est possible dans ces conditions-là?
Mais oui, elle est possible. Il ne faut pas oublier aussi que beaucoup d'efforts ont été consentis, ont été faits en 2014. Notamment la loi contre l'enrichissement illicite. Ce sont des avancées. Vous avez aujourd'hui de grandes réformes sont en cours pour moraliser, n'est-ce pas, la vie publique, que ce soit au niveau de nos finances, que ce soit également au niveau de nos textes. C'est que nous parlons de société civile. Nous oublions qu'au Mali, nous avons eu également notre marche, notre première révolution, qui a été aussi inspirée par la société civile malienne. Elle est là. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau de ce dossier,
que les présumés coupables ou qui sont cités dans ces rapports, qu'ils mettent en cause, n'est-ce pas, c'est pas la légalité, n'est-ce pas, du vérificateur général, mais ceux-ci n'ont pas mis en cause, n'est-ce pas, la légalité de la section de la cour des comptes de la Cour suprême. C'est que ce qu'il faut savoir aussi, au niveau de notre Assemblée nationale, la Haute Cour de justice doit maintenant rentrer en jeu. Parce que ces ministres, si c'est des ministres qui sont cités, vous saviez parfaitement que dans ce cas d'espèce, ils vont passer devant cette Haute Cour de justice, qui est déjà, où les membres sont nommés, mais donc le gouvernement est en train de se donner les moyens pour que aussi cette Haute Cour de justice puisse entrer en jeu. Donc vous savez, c'est pour cela que je pense que je disais tantôt que le gouvernement est en train de travailler avec méthode, avec responsabilité pour y arriver, n'est-ce pas, à faire un procès équitable comme tel que nous avons vu ce rapport qui a été fait dans des conditions de transparence totale. Donc également, ces personnes qui sont citées, qui sont présumées coupables, auront, n'est-ce pas, tous les loisirs, auront la possibilité de venir effectivement devant ces différentes juridictions pour défendre en tout cas s'ils ne sont pas coupables.
D'accord. Bounajim Cissé, économiste, est-ce que la lutte contre la corruption pour 2014 est-elle encore crédible?
Je pense que 2014 déjà s'étire vers sa fin. La fin, en tout cas, est extrêmement difficile. Je voudrais faire deux remarques principielles. La première, c'est que je crois fortement à l'indépendance de la justice. Ce n'est pas parce que moi-même je suis un fils de magistrat aguerri, un ancien magistrat aguerri. Je crois en l'indépendance de la justice malienne. Ça, c'est la première des choses. Je crois aussi en la présomption d'innocence. C'est-à-dire que ce soit l'organisation du procès, que ce soit les faits présumés, je pense qu'on doit faire extrêmement attention, être prudent, en laissant la justice qui s'est déjà saisie de cette affaire faire son travail avec beaucoup de sérénité. Parce que la sérénité est la matière première nécessaire pour qu'il y ait une justice équitable. Parce que lorsque, effectivement, dans le bruit ambiant, il y a beaucoup de passions, c'est difficile que la justice puisse faire des investigations poussées. Le rôle des deux rapports est d'attirer l'attention sur des indices quand même qui sont concordants et qui sont importants. Je pense que le chef de l'État, qui est le premier magistrat du pays, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, doit, c'est pour ça que je lui dis qu'il doit prendre la main, soit par une déclaration à la nation, soit par des actes concrets qui montrent que les hommes et les femmes qui l'accompagnent dans cette mission difficile, en ce moment difficile, sont d'une grande intégrité.
D'accord.
Madame, vous permettrez de dire deux choses à la joue et je vais en terminer là.
C'est bientôt la fin. Kouba doit dire deux mots.
Oui, bien sûr, ma sœur va dire deux mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est dangereux pour notre pays, c'est deux types de cadres. C'est le cadre qui n'est pas compétent et qui n'est pas intègre. Et c'est le cadre qui n'est pas intègre et, malgré qu'il soit compétent, il n'est pas intègre. Parce qu'on pense qu'avec un avalanche de diplômes, on peut faire un cadre de haut niveau au niveau de l'État. L'intégrité est extrêmement importante. Parce que quand on se met, on brigue, comment dirais-je, la magistrature suprême, ou on sert celui qui le brigue, on doit être irréprochable. On doit servir et non se servir. On doit faire attention à ce que les conseils qu'on donne au premier responsable soient des conseils qui soient irréprochables.
D'accord.
Vraiment, je souhaite à ce qu'il y ait de l'apaisement dans le pays. Que rapidement que le président prenne les mesures nécessaires pour qu'on passe à l'essentiel. Alors, et l'essentiel, c'est le développement.
Combaba, deux mots, c'est la fin.
Oui, je rebondis sur sa conclusion. Qu'il y ait de l'apaisement, nous le voulons bien. Mais c'est là, toi et moi, on est des femmes, on a des enfants. En général, quand ton enfant veut ton attention, il va faire du bruit. Et comme vous l'avez si bien dit, M. Cissé, nous voulons l'attention de notre président. Il faudrait qu'il nous parle. parce qu'on ne peut pas continuer à croire que tous les sujets qui sont externes au Mali soient d'actualité pour lui, sauf celui qui est interne. Donc que le président se prononce sur cette situation et que justice soit rendue.
D'accord, nous sommes donc à la fin de ce débat sur la surfacturation, achat de l'avion présidentiel et d'équipement pour l'armée. Ce débat a porté sur les conséquences politiques de cette surfacturation et les solutions pour redresser l'image du Mali. Nous espérons que nous avons donné satisfaction à vos préoccupations grâce à nos invités, Koumba Ba Traoré de l'association ICMA, Chekna Abounajim Sissé, économiste, et Amadou Aya, secrétaire politique du parti YLMA. Vous aviez Sira Bachilé au micro, Ousmane Diadié Touré à la réalisation, Gagné Kanté et Salim Diouara à la technique. Merci de nous avoir suivis. Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halo de Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.